Laurent Berger, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général de la CFDT. Merci d'être avec nous. Nous vous recevons un moment un peu particulier pour les acteurs des questions sociales et du dialogue social, puisque il y a deux semaines, le gouvernement a annoncé la réforme des conditions d'accès à l'assurance chômage, qui va faire porter des milliards d'économies essentiellement sur le dos des chômeurs les plus précaires ou les plus fragiles. Et donc, premier point, et la semaine prochaine, Jean-Paul Delevoye, qui est le haut commissaire à la réforme des retraites, va présenter ses premières préconisations pour faire basculer le système des retraites français vers un système à points. Donc on vous remercie d'être là pour discuter notamment de ces deux points très importants. On va prendre les choses dans l'ordre. D'abord sur l'assurance chômage. Quand vous êtes sorti de la réunion de présentation par le gouvernement de toutes les mesures qui vont être mises en place dans les mois à venir, vous vous êtes dit extrêmement en colère, abasourdi. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas?
Parce que cette réforme de l'assurance chômage, c'est une réforme qui a deux sous-jacents. Un premier, c'est que c'est une réforme budgétaire. Donc l'objectif, c'est de faire des économies. On sait bien que pour faire des économies massives, il faut taper sur la masse. La masse, c'est souvent les plus fragiles, entre guillemets. Et le deuxième sous-jacent, c'est cette idée que lorsqu'on est au chômage, c'est qu'un peu on le cherche et qu'il faudrait inciter davantage, voire plus, les demandeurs d'emploi à retrouver du travail. Et donc moi, j'étais en colère, je le suis toujours, tout simplement parce que ça touche profondément à ce que sont nos valeurs à la CFDT et au fait qu'on a besoin, lorsqu'on veut accompagner les demandeurs d'emploi pour qu'ils retrouvent un travail, ils ont besoin d'une indemnisation à la hauteur. Et là, il y a des mesures, que ce soit sur les conditions d'entrée à l'assurance chômage, que les conditions d'indemnisation de ceux qui alternent des contrats courts, ou que ce soit, y compris les cadres qu'on stigmatise un peu pour faire croire qu'on tape un peu sur tout le monde, tout le monde prend. Et donc, il y a 100% de perdants, je l'ai déjà dit. Donc, moi, je trouve qu'un pays qui ne se préoccupe pas d'apport de ceux qui subissent la précarité est un pays qui va mal.
Alors, ces craintes, vous les aviez depuis plusieurs semaines, ou même un peu plus longtemps. Vous craignez qu'on arrive à des décisions comme ça. Qu'est-ce que vous avez essayé de faire, ou qu'est-ce que la CFDT a essayé de faire, ou a pu faire pour contrer ça?
Ce chemin, il est emprunté maintenant depuis le transfert de la cotisation salariée à l'assurance chômage vers de la CSG. C'était le début, finalement, d'une logique assurantielle. C'était le début aussi d'une prise un peu importante des organisations syndicales sur le régime assurance chômage. Ensuite, il y a eu inscrit dans la loi Avenir Professionnel le fait que le gouvernement fera des lettres de cadrage pour dire aux négociateurs, patronat, syndicats, ce que vous devez mettre. Ensuite, il y a eu la lettre début septembre, ou en septembre, la lettre de cadrage qui était une lettre ahurissante d'économie, avec une demande de 3 et quelques milliards d'économies, et des éléments dans la lettre de cadrage qui étaient inentendables pour les organisations syndicales, inentendables aussi pour le patronat d'une certaine manière, parce qu'il y avait le bonus-malus généralisé, etc. On a essayé de négocier. On a discuté et on avait potentiellement, on aurait pu trouver un accord, mais qui aurait fait très peu d'économies. Mais qui aurait pu être qualitatif.
Ces discussions entre représentants des salariés et du patronat.
Oui, parce que je rappelle qu'on avait déjà fait une réforme en 2016 qui avait procuré des économies, mais qui a aussi amélioré pour certains le système d'assurance chômage. Parce que l'assurance chômage, il faut bien comprendre, c'est un organisme vivant. Ça structure des comportements des entreprises, aussi des travailleurs. Et donc du coup, c'est normal qu'il faut revoir les règles de temps en temps. Mais là, on était dans la capacité d'avoir un accord, d'autant plus qu'à un moment donné, le patronat, il a claqué la porte parce que le président de la République, dans le grand débat, avait dit: on fera le bonus-malus pour tous, etc.
Juste un point sur le bonus-malus, il s'agit de faire bouger les cotisations sociales payées par l'entreprise en fonction du nombre de contrats courts employés dans l'entreprise, pour faire
c'est
très
ça.
Très simple.
C'est ça, et du coup, en fait, on voit bien qu'il ne l'a pas fait pour tout le monde. Il
non,
l'a fait pour quelques branches, pas les entreprises de moins de 11, etc. Et donc, les dés étaient pipés, et là, on a une démonstration, et je crois que c'est aussi une leçon. C'est lorsque les acteurs sociaux, patronat, syndicats, discutent, passent des compromis, c'est jamais un long fleuve tranquille, c'est toujours difficile, mais c'est mieux que laisser la main à l'État. Parce que là, l'État a la main, a eu la main, comme la négociation n'a pas abouti, et ils sont allés à la hache, quoi. Ils ont frappé extrêmement fort sur les chômeurs.
Mais vous avez dit, les dés étaient pipés. Est-ce qu'il y avait moyen, dans ces négociations ou dans ces discussions entre partenaires sociaux, comme on dit, d'aboutir à quelque chose que le gouvernement aurait validé? Peut-être pas.
Non, c'était la grande incertitude. Mais en fait, si on retrace l'histoire, le lettre de cadrage, au départ, elle est faite pour pas qu'il y ait d'accord. Pour dire, vous voyez, ils sont pas capables, on reprend la main. Et puis, comme chacun sait, il y a la crise des gilets jaunes. Et à ce moment-là, le gouvernement dit, ça va être assez compliqué de faire une réforme qui tape fort. Et donc, ça serait bien qu'il y ait un accord. Et donc, à ce moment-là, nous, le rapport de force s'inverse un tout petit peu en notre faveur. On peut dire, OK, mais ça serait un accord extrêmement minime sur les économies. Mais après, il y a on finit par ne pas se mettre d'accord parce que c'est compliqué. Le patronat claque la porte et finalement, il récupère la main. Il attend les élections européennes et là, ils font, ils tapent. Donc, il n'y avait pas beaucoup de marge de manœuvre. C'était, je l'ai dit, moi, dès le mois de septembre, que c'était un exercice impossible qui nous était demandé.
D'accord. Alors, et une fois que ce bilan est fait, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait un rassemblement qui était assez symbolique avec la CFE-CGC, la CFTC, devant l'UNSA,
la TDCARBO,
devant le ministère du Travail pour dire, en gros, on n'est pas content. Et un fin du...
Parce que
on baisse le rideau et on passe à l'autre dossier?
Non, on ne baisse pas le rideau. On ne baisse pas le rideau parce qu'on s'inscrit dans un droit de suite. Mm-hmm. Pour nous, ce sera très important parce que ce qu'il faut faire comprendre, c'est que cette réforme, elle va passer par décret très rapidement, mais elle s'appliquera pour les demandeurs d'emploi qu'à compter de novembre pour le calcul de l'entrée en administration et à compter de février-mars pour les calculs des droits. Donc nous, on veut, dès le départ devant le Premier ministre, moi j'ai dit voilà, ce que votre réforme va provoquer pour Michel, pour Johanna, pour Malik, elle va provoquer ça très concrètement. Et donc nous, à la fin, tout au long de la mise en place de cette réforme, on va illustrer ce que ça crée en termes de situation humaine à hauteur de femmes et d'hommes. Après, oui, il y a une réaction symbolique, et d'ailleurs on l'a présentée comme telle pour une raison simple. Et j'ai du mal à le dire parce que ça m'arrache les tripes, mais oui, il y a une baisse du consentement à la solidarité dans notre pays. Et il y a une logique individualiste très très développée, et je suis sans doute pas le seul à entendre parfois des gens dire oui, mais s'ils sont au chômage, c'est un peu parce qu'ils l'ont cherché, etc. Et donc, on voit bien que ça crée pas un émoi à part dans les organisations syndicales et à part dans les associations de lutte contre la pauvreté.
Les journalistes spécialisés.
Et tant mieux.
Mais non, mais donc c'est intéressant ce que vous dites, et c'est un peu inquiétant. Vous dites. Il y a une baisse du consentement à la solidarité, ça veut dire qu'en gros, on considère que, bon, parce que comme vous avez dit, les gens les plus pauvres, les travailleurs les plus pauvres, ou les chômeurs l'ont un peu cherché, ou que peut-être vous pensez que les Français ou la majorité des Français pensent ça. Alors, c'est là qu'on est un peu au cœur de nos discussions, que depuis, ça fait longtemps qu'on discute un peu de ces questions, mais à Mediapart avec vous et avec la CFDT en général, mais du coup, est-ce que c'est pas le rôle des syndicats et de la CFDT, qui est devenu le premier syndicat en termes de voix, si on agrège le public et le privé, est-ce que c'est pas le rôle de syndicat de dire il faut qu'il y ait un consentement à la solidarité, ça concerne tout le monde, on sera tous...
On a de cesse de le faire. Quand l'année dernière, on se bat sur la stratégie pauvreté, avec les associations de lutte contre la pauvreté, qu'on obtient des rendez-vous pour essayer de faire bouger les choses, qu'on obtient des moyens pour l'insertion par l'activité économique, quand on dit qu'il faut une réforme fiscale, avec un impôt beaucoup plus juste, qui soit davantage basé sur le revenu que sur l'impôt indirect dont on sait qu'il est profondément injuste. On est sur ce consentement à la solidarité. Quand on dit, dans une réforme d'assurance chômage, il ne faut pas taper sur ceux qui subissent la précarité, vous savez, tous ces éléments-là, très clairement, ce n'est pas très électoraliste pour une organisation comme la mienne. Ça ne nous rapporte pas de voix aux élections professionnelles, soyons clairs, mais c'est une conception de la solidarité. Et moi, je crois que notre pays, il est miné par ce recul du consentement à la solidarité. Et à partir du moment où on n'a pas remis l'impôt à sa juste place, où on a commencé à parler de ras-le-bol fiscal, etc., alors après, on a essayé de reparler de justice fiscale. Certains sont aperçus qu'ils avaient fait des bêtises. Mais tout ça a contribué à faire en sorte qu'on parle de charges plutôt que de cotisations sociales. Tout ça contribue à ce que on se retourne finalement vers l'individu. Et c'est clairement, on a aujourd'hui un gouvernement, un président de la République, qui fait finalement un peu le culte de l'individu. Et moi, j'ai rien contre le fait qu'on prenne en compte les singularités de chacun. Mais il faut qu'on situe ça dans un cadre collectif. Et faire société, c'est à un moment donné contribuer au bien commun. Et c'est aussi s'assurer les uns les autres dans des systèmes de protection sociale. Et ça, oui, malheureusement, je préférais vous dire l'inverse, mais je serais un menteur. Oui, j'ai le sentiment que ça a un peu reculé. Et notre rôle, c'est vrai, le rôle du syndicalisme, c'est de remettre du collectif et de la solidarité un peu à tous les étages. Bah, c'est difficile. On le voit dans le monde du travail, dans les entreprises tous les jours. C'est pas spécialement simple entre ceux qui sont dans les entreprises donneuses d'ordre, entre guillemets, et les sous-traitants. Et c'est pas facile dans la société.
Alors, c'est vrai que c'est une des questions qui tourne beaucoup autour de la CFDT, on va dire dans l'aile gauche, l'électorat, des associations, etc. C'est, ok, ce constat est très bien, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et peut-être, et du coup, est-ce qu'il faut continuer à venir discuter avec un gouvernement dont on sait qu'il ne fera pas dont les décisions ne seront pas, n'iront pas dans cette direction. Il faut continuer à discuter. Est-ce qu'il faut continuer à se prêter à ce jeu-là?
Moi, j'étais délégué du personnel. Et les syndicalistes, c'est des gens qui sont dans les entreprises et qui ont en face d'eux un patron.
Tout à fait.
Ils le choisissent jamais.
Bien sûr.
À de très rares exceptions. Et le gouvernement, on ne le choisit pas. Et donc, moi, je suis dans la même posture comme responsable national de la CFDT qu'un délégué du personnel, une déléguée du personnel, dans une entreprise qui a en face de lui un patron. qui peut être ouvert à la discussion ou complètement fermé. Mais quoi qu'il en soit, notre rôle, c'est d'essayer d'être là où on peut essayer de peser sur la situation des travailleurs. Ça n'empêche pas d'exercer le rapport de force. Le rapport de force, c'est dans la capacité de porter des propositions, c'est dans la capacité de négocier, c'est aussi dans la capacité de se mobiliser par des actions de rue, des mobilisations, des actions
pour symboliser. C'est ça qu'on pourrait vous dire. Dans une entreprise, on fait la grève pour forcer la main du patron.
On a tenté de le faire sur l'assurance chômage et on avait dit que c'était symbolique, mais rien n'empêchait tout un tas de salariés de venir à ces rassemblements qu'on a opérés un peu partout. Donc, et puis après, le rapport de force, c'est aussi la capacité de nouer de nouvelles alliances. La CFDT, elle est en train de le faire. Quand on porte pacte du pouvoir de vivre, avec maintenant 45 organisations, quand on le porte en disant il faut des mesures à hauteur de femmes et d'hommes pour lutter contre la pauvreté, la précarité, il faut une société ouverte et démocratique, qui accueille, y compris sur la question des migrants. Il faut une société qui fasse la transition écologique, mais dans la justice sociale, parce qu'on peut avoir une transition écologique extrêmement autoritaire et injuste. Et en même temps, ça veut dire qu'il faut refonder la démocratie. On pèse dans le rapport de force, on pèse par les idées. Et je sais bien que le grand mythe, c'est se dire ce sera les manifestations qui feront changer les choses, potentiellement, peut-être, je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais aujourd'hui, ce constat, il est posé. Il peut paraître dur, mais faut pas nourrir les gens de mythes, faut nourrir les gens de propositions et d'actions concrètes.
Vous actez le fait que, puisque vous ne croyez plus, ou vous ne croyez pas aujourd'hui, dans les conditions actuelles, à un mouvement de masse pour aller contre les décisions du gouvernement, vous passez par un autre biais qui est le biais associatif.
Je ne dirais pas que je ne crois plus. Mm-hmm. Je dis que les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui et qu'il y a eu des élections qui sont déroulées dernièrement et elles ont été ce qu'elles ont été. Et donc, je dis que le rapport de force, il revêt plusieurs éléments. Et que ce que nous avons fait avec le pacte du pouvoir de vivre est un élément du rapport de force. Parce que, vous savez, tout ça, ça va continuer. On va la rentrée, on va faire un tour de France du pacte du pouvoir de vivre. On va affiner nos propositions. On a déjà affiné 8 dont on a dit qu'il aurait fallu qu'elles soient dans le discours de politique générale. Bien sûr que tout ça, pour l'instant, n'infléchit pas. Mais l'avantage d'une organisation un peu ancienne, que sont les organisations syndicales, c'est que on sait qu'il y a des moments plus difficiles, mais on sait aussi qu'il y a des moments où les opportunités reviennent. Il faut être prêt au moment de ces opportunités.
D'accord. Alors, on va passer au deuxième sujet qui, je pense, qui est beaucoup dans la tête des Français, qui va venir très vite. Et là, vous aurez aussi l'occasion de voir à quel point il est possible de peser ou pas, à quel point il est possible de se faire entendre ou pas. C'est la réforme des retraites. Bon, on ne sait pas exactement ce qui sera présenté, mais donc il y a le principe du système à points. Alors, pour l'instant, on est d'accord, la CFDT est en faveur du système à points, normalement.
Nous, on est en faveur.
Qu'est-ce qui vous intéresse?
Oui, on est en faveur d'une réforme systémique, on le dit depuis 2003.
Bien sûr.
Pour une raison simple, c'est que le système actuel est profondément injuste. Injuste pour ceux qui ont commencé à travailler tôt, même si on a eu les mesures de départ anticipé pour carrière longue. Injuste pour ceux qui ont des métiers difficiles. Injuste pour ceux qui subissent la précarité. On est de plus en plus de travailleurs à subir la précarité pendant sa carrière. Et injuste pour les femmes, particulièrement. Et injuste aussi pour ceux qui ont travaillé un peu dans le public et dans le privé.
Dans les régimes de retraite, ça s'accorde difficilement.
Ce qu'on appelle les polypensionnés. Donc ce système, on peut le rendre beaucoup plus juste, beaucoup plus lisible aussi, beaucoup plus libre choix, notamment en termes d'aspiration. C'est-à-dire qu'il faut des taquets, il faut des possibilités de départ plus tôt, de partir plus tôt quand on a eu des métiers pénibles, il faut quand on a commencé à travailler jeune, mais il faut aussi des taquets. À un moment donné, on peut liquider son droit à la retraite. Il faut garantir pour ça un bon niveau de pension, un niveau équivalent. Mais puis il faut aussi laisser les possibilités de libre choix, de gérer les fins de carrière avec des départs progressifs. C'est une demande qui est très très forte chez les travailleurs. On a fait une enquête par Parlons-Retraite qui le montrait. Il faut aussi gérer la situation de travailleurs, et c'est une réalité, qui n'ont pas envie de partir à 62 ans. Notamment dans tout un tas de professions dites intellectuelles, etc.
Aujourd'hui, ils ne sont pas obligés de partir à 62 ans.
Non, ils ne sont pas obligés de partir à 62 ans. Mais il n'y a pas. Donc il faut avoir un système plus juste, plus lisible. Moi, je suis frappé quand même d'amis qui sont à 3-4 ans de la retraite, qui sont incapables de dire ce que sera leur situation au moment de la retraite. Donc il faut que ce système, ce n'est pas les points qui nous intéressent. C'est d'avoir une réforme systémique qui soit plus juste. Maintenant, la seule condition, c'est qu'on ne mette pas un élément paramétrique dedans.
Élément paramétrique, ça veut dire
qu'on n'allonge pas, on recule pas l'âge, qu'on n'accélère pas la mise en place de la réforme de Marisol Touraine qui, en 2013, prévoyait un allongement de la durée de cotisation avec une augmentation des trimestres petit à petit. C'est-à-dire qu'on ne met aucun élément de nature financière dedans. Pour la CFDT, c'est clair. Si c'est ça, on se battra sur les éléments importants pour nous, la pénibilité, les carrières longues, le minimum contributif, c'est-à-dire ce qu'on touche à la pension, qu'on a en pension, en retraite quand on a travaillé toute sa vie.
Mais en ayant
gagné quasiment le SMIC ou un peu plus toute sa vie. Donc on se battra sur ces éléments-là. Mais si, la semaine prochaine, en même temps que sort le rapport, on nous dit que dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale à l'automne, on mettra un élément de paramétrique, la CFDT, c'est fini. Il n'y aura pas de possibilité de discuter avec nous.
C'est intéressant parce qu'on
considérera que finalement, cette réforme, elle a été précédée d'un élément de paramètre qui n'était pas la promesse.
Qui n'était pas au départ.
Qui n'était pas la promesse du président de la République.
Tout à fait.
On a beaucoup entendu les deux premières années, on le fait parce que c'était un programme, c'était une promesse. Dans le programme, il y avait une réforme systémique de long terme.
Sans économie.
Sans économie.
Alors, c'est intéressant, parce que pour traduire pour les gens qui nous regardent, il y a beaucoup de rumeurs, mais qui sont plus que des rumeurs, d'informations qui disent que le gouvernement est tenté, de reculer un petit peu le lancement du chantier de la réforme des retraites pour, avant, déjà faire des économies sur les retraités, pas actuels, mais les gens qui prendront bientôt leur retraite pour accélérer les mesures qui étaient déjà prévues. Donc là, effectivement, vous le dites, c'est une ligne rouge. Votre spécialiste à la CFDT, Frédéric Sève, répète régulièrement, souvent, que les mesures d'âge, c'est impossible, jamais la CFDT n'ira. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire? Parce qu'il est probable que le gouvernement aille vers ce choix.
Probable.
Possible.
Possible. Moi, mon caractère, c'est que jusqu'au bout, je me bats. Et après, si je perds, je le reconnais. Et s'il y a une mesure d'âge dans le PLFSS, on va le savoir très vite, parce que le projet de loi de financement de la sécurité sociale, il va arriver très vite. Pour la CFDT, on manifestera notre désaccord.
Okay.
Mais ça ne voudra pas dire qu'on renonce à ce qu'à un moment donné, un système de retraite soit plus juste. Mm-hmm. Parce que le système de retraite actuel, il est profondément injuste. Et notamment pour la moitié de la population active qui sont les femmes. Et donc, du coup, nous, on manifestera notre mécontentement. Je pense qu'on aura beaucoup plus de possibilités que sur la réforme de l'assurance chômage pour faire le lien à mobiliser du monde. Mais on le dira. Okay. Et on mobilisera, on est clair là-dessus. Et puis, cette réforme, elle sera entachée d'un péché originel qui sera ces mesures financières prises en amont de la réforme. Donc franchement, le gouvernement, il ferait une bêtise énorme s'il le faisait. Je comprends que certains sont guidés par la réforme budgétaire. Il ne le fera pas parce que cette réforme, c'est des retraites. C'est une réforme systémique telle qu'on l'aborde nous, une réforme qualitative. Elle est un élément de progrès. Je le dis, elle est un élément de progrès social. Il y aura beaucoup de controverses là-dessus.
C'est certain.
Je reviendrai en parler avec vous.
Avec plaisir.
Elle sera potentiellement un élément de controverse. Mais elle peut être un élément réellement de progrès pour tous ceux qu'on n'entend pas suffisamment aujourd'hui, qui sont ceux qui ont des basses pensions, ceux qui ont des carrières difficiles, qui partent à la retraite en ayant une espérance de vie beaucoup plus faible que d'autres. Et donc, nous, on veut mettre de la justice. S'il perd cette occasion de mettre de la justice, définitivement, il tombe du côté d'une logique purement budgétaire et pas sociale.
Il y a quand même peut-être sur cette réforme déjà un point qui me paraît important, qui est qu'effectivement, selon ce qui avait été présenté au départ, la réforme n'est pas censée faire des économies, donc ça veut dire qu'on resterait dans le même niveau de dépenses par rapport au produit international brut, au PIB, donc on serait autour maximum de 14% du PIB. Très bien. Mais dans les années à venir, le nombre de retraités va augmenter, va exploser. Même on parle de plus 30% de retraités d'ici 2050. Donc ça veut dire que dans la même enveloppe, on ferait entrer plus de retraités. Donc
la première application, le début d'une application d'une période de transition très longue, ce sera 2025.
Ouais.
Donc, dire dans quelle situation on sera en 2040-2045, c'est assez compliqué.
Il y aura plus de retraités.
Oui, il y aura plus de retraités. J'espère qu'on aura redéfini la place du travail, la façon de la contribution des uns et des autres, etc. Non, mais tout ça, c'est... Parce que la situation actuelle, les systèmes, si on ne bouge rien en termes de système actuel, il y aura plus de retraités aussi.
Tout à fait.
Ça ne change rien.
Oui, mais on n'a pas... Oui, complètement.
Et il n'y aura pas plus de garantie de financement.
Non, mais dans le cadre de la discussion, on est d'accord. Mais
donc, et après, compliqué de évidemment, dire que la question de 14% du PIB est posée, de la part qu'on a pour les retraites, mais ce n'est pas le seul sujet. La part pour la jeunesse, la part pour les quartiers dits périphériques, qu'on délaisse, qui est pour moi un des problèmes numéro un de notre République. La place pour la santé. Et donc tout ça, c'est des questions de choix. On revient à notre discussion sur la fiscalité, sur ce qu'on est capable de faire en termes de choix. C'est pour ça que nous, on réclame un vaste débat sur les contributions volontaires, la fiscalité, le financement de la protection sociale, etc. Et donc les retraites, ce n'est pas un sujet subalterne du tout, mais c'est un sujet parmi d'autres. Et aujourd'hui, on voit bien que les réformes successives qu'on a opérées, elles amènent petit à petit à un équilibre. des retraites. Eh bien, ce qu'il faut viser, c'est évidemment l'équilibre pour pas qu'on ait une espèce de concours et après qu'on se dise, ben, c'est plus silençable, on arrête. Mais il faut gérer de la solidarité à l'intérieur du système. Et aujourd'hui, c'est pas suffisamment géré. Je prends un exemple qui peut paraître anecdotique. La pension de reversion. C'est ce que touche un conjoint lorsque
décède son conjoint.
Voilà, ce conjoint décède. Voilà, c'est que pour les couples mariés. C'est adapté à la réalité d'aujourd'hui, ça ?
Certainement pas, mais c'est peut-être pas. Je suis pas sûr que le gouvernement ait prévu de bouger ce paramètre-là.
Non, mais tout à fait. Mais nous, on veut en parler. C'est-à-dire, la question, c'est ce que le gouvernement a prévu, c'est un point de départ. Après, est-ce qu'il aura de l'espace pour discuter ? Mais alors où je vous parle, j'en sais rien.
Ah, ok.
Mais ce que je veux pas, c'est donner le sentiment que de toute façon, c'est plié. C'est plié, et deux, on serait contre toute évolution. L'évolution qui donnerait des points supplémentaires à un certain nombre de femmes parce que la maternité, parce que des arrêts pour différentes raisons, moi je suis pour. Je suis pour que le système, parce qu'on a eu 3 enfants, on a un supplément de retraite qui est proportionnel à ce qu'on a touché.
C'est ce qu'on a aujourd'hui.
Ouais, qui touche, évidemment, ça concerne qui ?
Plutôt les
hommes et les cadres. Et souvent, ce sont des hommes. Bon, alors qu'on sait que ce n'est pas eux qui ont souffert de la parentalité en termes de développement de carrière. Oui, tout ça, ça mérite d'être posé. Si c'est pour améliorer, très bien. Si c'est pour faire un truc où d'abord on fait une réforme financière et après on enterre le bébé, la CET se mobilisera.
Donc ça veut dire que vous annoncez potentiellement des manifestations.
Non, j'annonce qu'à chaque fois que la justice sociale est en cause, la CFDT, elle est là. Et on a été là sur les retraites. On n'a pas menti sur notre capacité de mobilisation, on s'en expliquait tout à l'heure. Sur les retraites, je pense que la capacité de mobilisation est tout autre. Et donc, il vaudrait mieux aller vers de la justice sociale que des mesures idiotes.
Okay, écoutez, on va en rester là. Je vous remercie beaucoup
d'être
venu à Mediapart.
Merci à vous.
Et à bientôt pour ces questions.
À bientôt.
Merci beaucoup.